Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Avec son nouveau film Mon chien stupide, Yvan Attal, que nous recevons aujourd'hui et dont je suis attentivement le travail depuis des années, m'a donné du grain à moudre, comme le disait si justement André Bergeron dans son livre intitulé « Tant qu'il y aura du grain à moudre ». Je m'explique, nous faisons des métiers dans ce royaume enchanté du divertissement qui nous éloignent quotidiennement de ceux dont nous partageons la vie et auxquels nous sommes étroitement attachés, qu'il s'agisse de compagnes, de compagnons, d'enfants, voire d'animaux domestiques ou de poupées gonflables pour les plus déviants. Oui, la vie nous détache de ceux qui nous attachent. C'est une règle générale, à l'exception de quelques entreprises familiales, comme chez les Escobar par exemple. Mais Yvan Attal nous démontre une fois de plus que ce n'est en rien une fatalité. C'est la troisième fois en 20 ans qu'il embarque femme, puis enfant, et même aujourd'hui chien, dans son aventure cinématographique au long cours, à la fois pour fictionnaliser sa vie et revitaliser sa fiction. Et bien sûr, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire autant ? Charline Roux partage la vie d'un régisseur de scène. Aurélien, notre rédacteur en chef, possède une belle collection de poupées qu'il fait passer pour des bouées sur les plages cabourgeaises. Et moi, j'ai épousé une grecque. Imaginez que nous partagions tous ensemble chaque instant du quotidien, y compris en direct à l'antenne. Je vous garantis que la nature même de Popopop s'en trouverait radicalement transformée. Faut-il s'y risquer ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'intégrer ce que l'on aime à son travail ? Que vient faire un chien stupide là-dedans ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Yvan Attal est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Paule.
Et bonjour Yvan Attal.
Bonjour.
Beaucoup de questions, n'est-ce pas ?
Ça veut dire vous avez beaucoup de questions.
Oui, j'ai déjà posé quelques questions.
Ah oui, mais vous m'avez déjà bien éclairé sur quelque chose.
Sur quoi ?
Eh ben, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'on me dit vous tournez avec votre femme, etc. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'on fait des métiers. On est tellement loin des gens qu'on
Absolument.
Aime que de temps en temps, si on peut les emmener avec nous, mm-hmm. au moins ça nous fait du bien.
Vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour découvrir ça.
Mais
même,
en fait, non, mais formuler comme ça, oui. Ça veut dire, oui, j'ai fait un film qui s'appelait « Ma femme est une actrice », donc je l'ai fait avec ma femme, et puis j'ai fait un autre film. Mais en réalité, on est tellement loin de nos familles que quand on peut vraiment les embarquer avec nous, le découvre. C'est pas que je le découvre, mais vous l'avez formulé à ma place.
Eh ben, j'aurais au moins servi à ça. Alors, à mes côtés, celle qui me regarde étrangement après cette introduction, Charline Roux.
Je regarde toujours étrangement, toi.
C'est vrai,
Charline. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Charline. Au menu également de Popopop, votre fils Yvan Attal, enfin votre fils dans le film, hein, Panayotis Pasco, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant ça, Yvan Attal, ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus étrange que les questions précédemment citées. Et cette question, c'est...
Pour vous, Yvan, c'est quoi la pop culture ?
Alors attendez, parce qu'avant de répondre, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses ivanesques, atalisées, caninantes et même stupidissimes. Mais parmi mes préférées, il y a celle de Charlotte Gainsbourg, pour rester en famille.
Pour moi, c'est ce que j'écoutais dans la nurserie rue de Verneuil, c'est ça la pop culture, c'est ce que j'écoutais, c'est Blondie, c'est tous ses débuts et c'est resté. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un nouveau regard sur cette culture très abordable en fait. Mmh. J'étais réticente, j'ai montré les fers au départ et en fait ça m'a pris aussi.
Alors vous n'étiez pas rue de Verneuil, Yvan Attal, peut-être avez-vous une nurserie, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous cette pop culture ?
La pop culture, c'est comme son nom l'indique, la culture populaire. Mmh. Ça veut dire que dans culture, il y a quelque chose d'un peu élitiste.
Ouais.
La culture, c'est comme si on n'avait pas tous accès à la culture. Or, il y a bien une culture populaire. Les gens écoutent de la musique, vont au cinéma, regardent des trucs, il y a des trucs qui les font triper. Mmh. Et ben, c'est de cette culture-là dont on parle. Ça veut dire pas les films couronnés à droite à gauche, mais les films que les gens vont voir, réellement que les gens vont voir, la musique qu'on entend à la radio, etc., etc. Et c'est la bonne culture pop, quoi.
Vous voulez dire les films qui vont pas au César?
Mais oui, mais parce que par exemple au César, tout d'un coup, on a décidé de rendre enfin hommage aux films que les gens allaient vraiment voir. Mm-hmm. Et ça a été un tollé dans la profession. On va remettre un César au film qui fait le plus d'entrées. Mais moi, je trouve ça magnifique. Mmh. Je trouve ça magnifique de se rappeler un tout petit peu que quand même, on fait les films pour que les gens les voient. Mmh. Et que ce César du film qui a le mieux marché fait totalement sens. Et ça s'intègre totalement à cette définition de la pop culture.
Absolument. Yvan Attal est chaud comme la braise aujourd'hui. Vous l'entendez tous. La pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Popopop juste après un featuring signé Nekfeu et Vanessa Paradis dans l'univers. Enfin, dans l'univers, c'est le nom du morceau par l'endroit du featuring, bien sûr.
« univers, y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puits s'ennuie. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Vanessa Paradis, Nekfeu, dans l'univers, cet extrait de l'album Les Étoiles Vagabondes, Expansion. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tom Cruise.
Vous me connaissez ?
Non.
Vous plaisantez ?
Enfin, la VF de Tom Cruise. Alors, qui se cache derrière la voix du héros de Mission Impossible ? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, Yvan, bien sûr, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé, ben, Charline...
Pas mal. Aujourd'hui, un acteur à qui on demande quasiment tout le temps si ses films ont toujours un rapport avec sa vie. Alors, j'ai enquêté, je suis assez formelle, hein, même si je ne connais pas personnellement Yvan, c'est non. Enfin, en tout cas, j'espère. Par exemple, je parle sous contrôle, il n'a jamais détourné un bus scolaire pour rejoindre sa douce vivant à 100 bornes de chez lui. Il n'est donc pas Bruno dans Aux yeux du monde. Il n'a jamais été recruté par les services secrets. Il n'est donc pas non plus Ariel des Patriotes. À moins qu'Yvan Attal ne soit sa légende, de toute façon, il ne nous dira pas, c'est pas la peine. Il n'a jamais été la proie d'une chasse à l'homme. Il n'est donc pas le François Taillandier d'Anthony Zimmer. Il n'a jamais été candidat à la présidentielle, contrairement à ce qu'il a fait dans le film de Neil Sarestrup, à moins qu'il soit en campagne et qu'il ne le dise pas. Je ne crois pas non plus qu'il ait jamais été rapté, ni même qu'il ait été témoin silencieux d'un crime odieux. Il n'est donc aucun de ces personnages chez Lucas Bellevaux, pas plus que ceux qu'il incarnait chez Sidney Lumet dans L'Interprète ou chez Spielberg dans Munich. Il n'est pas non plus celui qu'il est chez Wes Anderson, puisqu'en l'occurrence c'était un chien, de même qu'il n'est pas Alain Attal, et c'est pourtant le rôle qu'il a tenu dans Rock'n'Roll. Vous voyez, la réalité n'est pas la fiction, enfin en tout cas quand il n'est que comédien. Et aujourd'hui, le réalisateur est de la partie. Bah, du coup, ça vaut peut-être le coup de reposer la question, je pense.
Ça vaut peut-être le coup de reposer la question, donc.
C'est quoi la question?
Est-ce qu'il y a de votre vie dans tous vos rôles?
Bah, peut-être. Moi, j'ai l'impression que. Non, et on a l'habitude de dire que non, mais on finit quand même par. Par dessiner peut-être quelque chose, j'en sais rien, mais surtout, quand un acteur arrive dans un film, il arrive avec ce qu'il est, avec sa sensibilité, etc. Donc forcément, et si on revient à ce film aujourd'hui, ou au film que j'ai fait avec Charlotte, forcément, c'est pas moi, mais c'est la complicité du couple qui est au service d'un film à un moment. Mais c'est évident qu'à aucun moment, moi, j'ai l'impression de raconter ma vie. Et franchement, je déteste les films où j'ai l'impression que c'est ça que je vois.
Mais il y a un vrai truc sur le secret dans toute votre filmo. Ah c'est, bon c'est un lien commun à peu près entre tous vos personnages.
Là, vous me faites flipper parce qu'il n'y a pas si longtemps...
Il va apprendre plein de choses aujourd'hui avec
Il n'y a pas si longtemps, il y a une fille un peu fofolle qui me dit « il y a quelque chose d'un peu bizarre ». Elle faisait le pendule. Et alors, et elle m'a dit « il y a un secret dans ta vie ». Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que
je
ça résonne.
Je voulais pas.
C'est affreux ce que vous venez de me dire.
Non, il y a un lien. Surtout vos personnages, ils ont tous un lien avec le secret, d'une manière ou d'une autre.
Bon, Yvon Attal, des questions, je vais vous en poser, et des questions de pop culture, car c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Les Compagnons de la Grappe, écrit par John Fante, paru en 1977. Donc on l'a compris, hein. Vous aimez Fante. Yvan, eh bien figurez-vous que vous n'êtes pas le seul. Ma partenaire Charline aussi, tout comme elle, est fan de la grappe, par ailleurs. Et elle va nous rappeler de quoi parle Fante, là.
Enfin, si elle s'en souvient. Shame on you, Antoine Decaune, vraiment. Étonnamment, vu les préoccupations du bonhomme, c'est l'histoire d'un écrivain à succès. Quinca, confronté à une situation de crise, ses parents menacent encore de divorcer l'occasion d'une réunion de famille imbibée.
Bien. Auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît,
Yvan ? Oui, alors je vais mettre mes lunettes. S'il vous plaît. Voilà. Mon père n'avait jamais désiré d'enfant. Il avait désiré des poseurs de briques et des tailleurs de pierre. Il a eu un écrivain, un comptable dans une banque, une fille mariée et un serfrein. En ce sens, il a essayé de faire de ses fils des maçons, comme on façonne la pierre, en cognant dessus. Il a échoué, bien sûr, car plus il nous frappait, plus il nous éloignait de l'amour du métier. Quand nous étions gosses, un grand rêve habitait Nick Molise. Le pressentiment d'un avenir glorieux comblait son esprit. Molise et fils, maçon.
Merci. Ça, c'est extrait donc des Compagnons de la Grappe de John Fante. John Fante, dont vous venez d'adapter Mon chien stupide, alors que vous dites que c'est Les Compagnons de la Grappe,
oui,
votre livre préféré.
Bah,
expliquez-nous ce paradoxe, Yvan Attal.
Ce paradoxe, c'est que j'adore Fante depuis que c'est sorti. Je l'ai découvert, je devais avoir 20-25 ans. J'ai pas du tout lu Mon chien stupide à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti. C'est le dernier qui est sorti.
Oui.
J'avais lu Demande à la poussière, et puis Bandini, et puis celui-là, qui m'avait marqué, et c'est ça que j'adore chez Fante, c'est son rapport à ses racines, à sa famille, à son père, à l'Italie, et ce livre est à mourir de rire, bouleversant, mais c'est Mon chien stupide qu'on m'a proposé. En fait, avec Fante, je pense qu'on a toujours tous été très inhibés, parce qu'on pensait que c'était très, très, très américain, et uniquement américain. Et en fait, en adaptant, du coup, Mon chien stupide, j'ai réalisé que pas du tout et que peut-être que je vais finir par m'attaquer à ses compagnons de la grappe.
De la grappe, très bien.
Ça, pour vous ravir de
plaisir. Charline sera aux anges ce jour-là. Alors, pour le film, vous avez choisi 7h58 ce samedi-là, réalisé par Sidney Lumet, que vous connaissez bien, sorti en 2007. Charline, 7h58, je le tiens bien, mais de quel samedi exactement parle le film de Sidney Lumet? Vous voyez nos lanternes? Eh bien, éclairez-les.
Aucune idée pour le samedi en question. En revanche, 7h58, c'est l'heure à laquelle la vie de la famille Hanson va basculer. Juste avant, Charles, le père, merveilleux Albert Finney, passe un test de conduite. Son fils aîné Andy, génial Philip Seymour Hoffman, s'inquiète pour le contrôle fiscal qui débute. Et pendant aussi que, comme d'habitude, Hank, le frère cadet Ethan Hawke, absolument dément, se noie dans ses problèmes d'argent.
Je marche. Alors on fait quoi? Et quand?
C'est une bijouterie. Ça te dit quelque chose?
Écoute bien. On a bossé là tous les deux, on connaît la combinaison du coffre. On connaît le système d'alarme, on connaît tout par cœur.
Merde! Merde!
C'est parti en vrille, Andy.
Oh putain, Andy. Qu'est-ce que je vais faire, putain?
Oui, Yvan, ça ne vous a pas échappé, c'est bien la VF.
Ah, j'adore cette VF.
Elle est extraordinaire. Alors, pourquoi choisir 7h58 ce samedi-là plutôt que ce mercredi-ci? Nous sommes mercredi à 7h-là.
C'était surtout pour parler d'autre chose que le parrain pour une fois. J'en pouvais plus moi-même. Quand tout d'un coup, je me suis dit, le parrain, j'ai dit, non, stop le parrain. Même si, pour le coup, c'est beaucoup plus pop.
Oui,
parce que le parrain, c'est de la pop culture
oui,
aujourd'hui.
Oui, votre porte d'entrée dans le cinéma, c'est le parrain quand même.
Oui, bon. Mais donc, c'était pour pas parler du parrain.
D'accord.
Voilà pourquoi j'ai parlé de celui-là. En dehors du fait que j'ai eu un coup de foudre avec ce film la première fois que je l'ai vu, depuis je l'ai vu 25 fois, mm-hmm. et que je regrette que ce ne soit pas rentré dans la pop culture, parce que c'est un film de casse, un film de famille, c'est le dernier film d'un des plus grands metteurs en scène américains, et c'est un film super, quoi.
Mais il y rentre aujourd'hui, grâce à vous.
Voilà, et peut-être qu'en VF, alors là, ça va être très pop, quoi.
Et avec des partitions d'acteurs absolument
démentes. Ils sont géniaux.
À chaque fois qu'un réalisateur me parle de Sidney Lumet, évidemment, je suis obligé de lui demander, le film Making Movies, est-ce que c'est considéré comme une bible pour un réal?
Alors, je crois que oui, parce que ça commence, la première phrase du livre de Lumet, Making Movies. Faire un film, ça démystifie tout le cinéma et ça, j'adore ça.
Quelle est cette
Il
première
dit,
phrase
un jour, Kurosawa m'a demandé pourquoi j'avais cadré tel plan comme ça, et je lui ai dit, je faisais un film d'époque, à gauche, il y avait le panneau de la Warner, à droite, il y avait une usine de je sais pas quoi, donc le cadre, c'était celui-là. Et je trouve que ça, c'est le cinéma. Voilà.
Absolument. Yvan Attal, passons à la série. Pour la série, vous avez choisi Friends, la série créée par Martha Kaufman, diffusée entre 1994 et 2004. Ah, Friends. Série régulièrement évoquée dans le panthéon de la pop culture. Charline, vous qui connaissez si bien le canapé de Friends, étonnez-nous, apprenez-nous quelque chose que nous ne sachions déjà.
La statue de chien blanc dont Joey est si fier et qui fait partie de sa sublime déco d'appartement appartenait en fait dans la vraie vie à Jennifer Aniston, avec qui il avait été offert en guise de porte-bonheur. C'est elle qui avait proposé de la prêter en guise de déco, un bon moyen de s'en débarrasser parce que le truc est quand même immonde, et ça collait assez bien au personnage de Joey que l'on entend ici dans une mémorable leçon de français.
Alright, this seems pretty simple. Your first line is my name is Claude, so just repeat after me. Je m'appelle Claude.
Je découpe plow.
let's try it again.
Okay.
Je m'appelle Claude.
Je déplie blue.
Huh. It's not quite what I'm saying.
Really? Sounds exactly the same to me.
It does, really?
Yeah.
All right, let's just try it again.
Okay.
Really listen.
Got it.
Okay. Je m'appelle Claude.
Je te flie.
C'est ça vous fait toujours autant marrer.
Mais je me marre là encore.
Quel effet ça vous fait quand vous réécoutez Friends, quand vous renvoyez Friends?
Mais je le regarde souvent.
Mm-hmm.
Mais franchement, quoi. Ça veut dire, j'ai découvert au moment de la sortie de Friends, je sais pas, il y a quand même 25 ans, quelque chose comme
ouais,
ça.
96, ouais.
Et puis c'est mes enfants qui m'ont ramené à ça.
Ouais.
Ma fille qui a 17 ans là, elle regarde Friends. Mm-hmm. Et du coup, elle m'a donné envie de revoir et je les revois et je me marre. Je trouve que c'est écrit, mais vraiment, c'est très, très, très drôle, quoi. À l'image de ça, c'est absurde en même temps. Non, il y a des trucs même visuels, c'était vraiment une sitcom, en fait. On est loin de la série ultra sophistiquée d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je passe du bon temps devant Friends et beaucoup moins devant les séries des grands metteurs en scène de cinéma qui passent à la série, j'avoue.
Quel est le métier de Chandler ?
Chandler, il travaillait dans un... Non, mais oui.
C'est le running gag de toute la série. Personne ne sait.
Ah oui, non, parce qu'il travaille dans un truc de
He's ordinateur. He's a transponster.
Ah voilà, c'est ça.
Vous essayez de coller mon invité, c'est ça?
Bien sûr.
Ah oui, non, mais c'est une pro vraiment de...
Je la connais par cœur. Par cœur.
Non, mais surtout, elle est retorse. Parce qu'elle essaie de vous coincer.
Elle n'est pas sympa.
Ah ouais, un mauvais fond.
Et vous connaissez les paroles de la chanson de Phoebe?
Ouais.
Allez-y.
Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you?
Non mais c'est incroyable.
J'adore.
C'est incroyable.
Vous pouvez y aller, je suis intestable sur Friends.
On va peut-être continuer sur la pop-liste si ça vous
ennuie
pas. Alors il me manque une chanson et pour la chanson, vous avez choisi celle-ci. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Black Magic Woman de Santana, sorti en 70 sur l'album Abraxas, soit le deuxième album studio du groupe de Carlos Santana, un des meilleurs à mon goût avec Caravanserai. Je dis ça, mais ça n'intéresse que nous deux, Yvan. Pourquoi cette chanson-là ?
Parce que moi qui ne suis pas un danseur,
ah bon ?
À chaque fois que j'entends ça, j'ai envie de remuer mon cul. Et puis ce son, cette guitare. Non, franchement, ce morceau me fait à chaque fois le même effet. Je l'écoute depuis tant d'années et je m'en lasse jamais, quoi.
Vous n'êtes pas danseur, vous le regrettez peut-être ?
Ah, je le regrette absolument. Ah non, j'aurais rêvé être un gars avec une longue jambe au milieu d'une piste de danse. Ah, mais c'est mon fantasme absolu, quoi.
Mais réalisez-le.
Comment vous voulez que je fasse ?
Prenez des cours de danse.
Mais ça va pas.
Mais si, bien sûr.
Mais je vais me fouler une cheville, je vais me faire un lumbago.
Antoine l'a fait.
Mais oui, lui, il a pris des leçons de claquettes.
Mais moi, j'ai pris des leçons de claquettes.
Oui, mais toi, t'as un corps de danseur.
J'ai un corps.
Tu t'imagines un petit gros comme moi au milieu d'une piste de danse ?
Bon, mais non, vous n'êtes pas si gros, Yvan, c'est pas vrai. Je peux pas vous laisser dire ça. Bon, je résume. John Fante, 7h58 ce samedi-là. Friends, Black Magic Woman. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. Got a black
magic woman. Je te coupe, clown. Got a black magic woman. Je te plie, blue.
Ça marche. Alors on fait quoi ? Got a black magic
woman. C'est une bijouterie.
Quand nous étions gosses, un grand rêve habitait Nick Molly's. Le pressentiment d'un avenir glorieux comblait son esprit. Molly's et fils, maçon. Got your
spell on me, baby. All right, let's just try it again. Hey. Really listen.
Écoute bien.
Je m'appelle Claude.
Je te floupe-flie.
Voilà ce qu'il y a dans la tête d'Yvan Attal.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça.
C'est vrai, avec un waf-waf maintenant et on y est.
Je vous le fais.
Voilà, très bien.
Voilà. Ça manque pas un petit peu de Tom Cruise ?
Ah, mais on l'a pas entendu là ?
Oui, on l'a un peu. Non, il était pas dans le mix. Bon, c'est pas grave. Bon, Tom Cruise, ne bougez pas. On va parler du nouveau film d'Yvan Attal. C'est juste après un Radiohead, Creep.
I'm a winner. fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune
et Charline Roux. Jeunes, femmes et couples sont les premiers résultats qui tombent quand on tape votre nom sur Google, Yvan Attal. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à votre cinéma. Vous venez nous présenter Mon chien stupide, votre adaptation de John Fante. John Fante fait partie de ces écrivains qui vous accompagnent tout au long de votre vie, auxquels on revient toujours. Voilà une remarque que l'on se fait quand on a atteint un certain âge, quand ce n'est pas, comme dans mon cas, un âge certain, voire incertain. C'est comme avec Racine, hein, il faut avoir un peu vécu pour en goûter le charme profond. Est-ce pour cette raison que vous avez décliné la proposition d'adapter et non pas adopter Mon chien stupide, il y a une bonne quinzaine d'années?
Absolument, c'était il y a 20 ans. Claude Berry m'avait proposé d'adapter Mon chien stupide, et à cette époque-là, je n'avais que 30 ans et quelques, et que je n'ai pas vraiment compris ce personnage de Henri. 25 ans après, ou 20 ans après, je suis toujours avec la même femme, j'ai 3 enfants, et là je me suis totalement identifié à ce gars qui n'en peut plus de sa famille, quoi. Voilà.
Mais vous êtes même allé plus loin que ça, vous avez dit qu'il fallait être un vieux con pour pouvoir adapter correctement Mon chien stupide.
Bah, c'est un peu ça le personnage.
Non, mais du coup, quel Fante vous semblerait plus adapté pour les jeunes cons, le réalisateur? Demande à la poussière,
non,
peut-être.
Non, Demande à la poussière, ouais. Exactement, absolument. Mmh.
Mon chien stupide, de quoi ça parle? C'est encore Henri, le personnage que vous incarnez, un anti-héros qui en parle le mieux. Bande-annonce.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer.
Et tout bascule quand Henri décide de garder stupide le chien. Alors la première question que pose le film, c'est comment un artiste peut-il rester créatif quand il est rattrapé par la vie domestique? Comment faites-vous vous-même, Yvan? Vous vous contentez d'en faire des films? C'est un sujet qui vous travaille vraiment beaucoup?
Non, mais j'ai besoin de m'isoler surtout. Ça veut dire, quand on a une famille, etc., et qu'on veut quand même avoir un moment à soi, parce que travailler, écrire, c'est une chose quand même très personnelle.
Solitaire.
Et solitaire, en plus. Donc, oui, je m'isole.
On aime à répéter que le plus dur pour les gens de cinéma, c'est de tourner avec des enfants ou des animaux, mis en abîme toujours. Bah, pour votre personnage, c'est l'histoire de sa vie, lui, pour le coup.
Bah, et pour moi aussi, parce que là, je tourne avec mon fils
en
et mon
alors,
mes
c'est
enfants.
C'est compliqué.
Je crois que c'est quand même les chiens, quoi. Franchement, c'était très, très, très compliqué. Voilà.
Ouais.
Donne la patte, ça peut durer 3 heures. Voilà. Tourne la tête à droite. On avait beau faire dès que taper dans les mains, lui donner des bonbons, jeter la baballe, tout ça. Le chien, il était vraiment mais stupide, quoi.
Alors ça ne se produirait jamais avec un acteur humain.
Non, absolument. Non, il y en a quelques-uns.
Oui, on est d'accord.
De temps en temps, il faut un peu les réveiller aussi. Mais bon, on y arrive un peu plus facilement quand même.
Alors on parle d'un chien, mais c'est pas un film sur l'adoption. En tous les cas, c'est un film sur l'adaptation. Fante n'est pas un auteur correct, au sens où on l'entend en 2019. Il trouve par exemple très légitime de ne pas supporter ses propres enfants. Il estime d'une certaine manière que, artiste ou pas, il vous vole votre vie. Avec Mon chien stupide, c'est un message indirect que vous envoyez à vos propres enfants.
Ouais, mais c'est aussi une jolie manière de leur dire qu'il les aime.
Ouais.
La fille de Fante que j'ai rencontrée m'a raconté que pendant qu'il écrivait Mon chien stupide, tous les soirs à table, il leur lisait les pages qui les concernaient. Ça veut dire qu'il se foutait de leur gueule dans la journée et à table, il leur faisait la lecture de leur portrait dégueulasse. Mais quand même, ça veut dire qu'il tape sur la gueule de ses enfants, il dit qu'il n'en peut plus, qu'il est pressé, qu'il se casse. Mais quand même, à la fin du livre, Et il dit quand même, quand je pense que j'ai troqué ma femme et mes quatre enfants contre ce chien pédé et obsédé, mon cœur se brise en mille morceaux et je me mets à pleurer. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement séduisant à vos yeux à incarner un homme, je cite, paresseux, arrogant, égocentrique, connard, vocabulaire utilisé par sa propre femme, qui ne le ménage pas non plus.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est plus un rôle pour moi qu'un gars, qu'un beau gars, élancé, intelligent. Je sais pas, c'est des rôles. C'est de toute façon, c'est des rôles plus jubilatoires, quoi qu'il arrive. On se marre, c'est vengeur. On se défoule, quoi. Voilà. Se défoule à pouvoir insulter tout le monde, sa femme, ses enfants. On en profite quand même pour dire deux, trois trucs, pour revenir à la question
justement,
précédente.
J'ai une question très perso. Est-ce que tourner un film avec sa femme sur des problèmes de couple, ça a une fonction thérapeutique dans le couple? C'est juste pour savoir.
Mais j'ai l'habitude de dire non, mais je vais quand même y réfléchir sérieusement. Je pense quand même que quoi qu'il arrive, ça règle deux, trois trucs. Voilà. Parce que on se dit des trucs à l'écran, ben peut-être on n'a plus besoin de se les dire après. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de ça. Mais en tout cas, j'espère que ces films sur le couple qu'on a fait ensemble sont jamais impudiques quand même.
Voilà. Pour revenir au livre de Fante, qu'est-ce que vous avez gardé ou mis de côté par rapport au livre? Je pense en particulier à la scène du viol conjugal, qui est assez chaude quand même dans le livre. C'est impossible à intégrer dans un film aujourd'hui, même si on imagine bien que ça continue à faire partie de la vraie vie.
Vous disiez il y a quelques secondes que Fante était vraiment pas correct, et politiquement
féroce.
Et effectivement, il a écrit à une époque où je pense, en tout cas au cinéma, c'est injouable. Ça veut dire, il y a d'abord cette femme avec qui il est marié, ce personnage de Harriet, je crois, dans le livre, elle est totalement raciste. Elle supporte pas la petite amie de son fils qui est noire, elle supporte pas d'avoir une belle fille noire, et donc déjà, alors en même temps le livre parle de l'Amérique de ces années-là, mais en même temps c'est encore très possible aujourd'hui, et non seulement en Amérique, mais ici, aussi chez nous. Ouais. Donc, mais c'est impossible. Ça veut dire aujourd'hui parler de racisme dans un film, injouable. Le viol conjugal, j'ai l'impression encore moins. Il fume un joint dans le livre. Elle s'évanouit, elle vomit, et il la baise dans son vomi, alors que ça fait des années qu'il dit qu'il la baisse pas, et là, il la voit allongée comme ça, baveuse, et il l'attrape comme ça, elle est sur le ventre, il lui soulève sa robe. Je trouve ça, alors honnêtement, j'ai mis ça, non pas dans ma V1, enfin dans ma V1.
Dans votre propre V1.
Mais j'ai pas osé la donner au producteur, je savais. Ça veut dire que, déjà, quand je pense que les producteurs m'ont demandé si c'était possible de garder toutes ces choses avec les enfants, mais est-ce qu'ils étaient déjà choqués par ça?
Ah oui.
Et déjà par deux, trois putains ou des gros mots, je pense que le viol conjugal, c'était absolument impossible.
Est-ce que ça vous donne pas l'envie, avec le mauvais esprit que je vous connais, de faire un film vraiment autour de ça, autour du problème du politiquement correct aujourd'hui?
Mais j'adorerais, mais il faudrait savoir comment aborder le sujet.
Bah, y a le...
Puisqu'on ne peut pas y aller, ça veut dire que, non mais on rigole là, on rigole, on est à la radio, mais quand vous apportez un scénario aux chaînes de télévision, c'est compliqué quand même, c'est très très compliqué. Et moi, on m'a fait quand même couper des choses du film là, des gros mots. À un moment dans le film, je dis bon, je tape à la porte de la chambre de mon fils, qui sait, c'est moi, ton père, celui qui nique ta mère, pour citer Fante. C'était pas possible. On m'a fait couper celui qui est ton père, c'est le gars qui nique ta mère, quoi, tu vois. Pour moi, ça me paraît très clair. Bon, c'est comme c'est ça, le père. C'est celui qui baigne ta mère.
Calmez-vous, Yvan. Bon, je rassure nos auditeurs, il en reste beaucoup dans le film, fort heureusement. On le disait en début d'émission, vous avez été la voix française de Tom Cruise, dans quelques films, dans Eyes Wide Shut de Kubrick, dans Mission Impossible 2, Vanilla Sky, Minority Report. Tiens, Eyes Wide Shut, ça donnait ça.
Je ne sais pas, mais il me semble qu'un maillon m'échappe là. Pour vous, c'était du bluff, une mascarade. Non, mais franchement, quel genre de mascarade à la con, finie par une morte dans une morgue.
Et doubler Tom Cruise, ça doit pas être facile, parce qu'il conduit drôlement vite.
Non, mais il joue bien mieux que moi, surtout. Parce que là, quand je m'entends, ceci dit, je me souviens très bien qu'il y avait une scène où Tom Cruise, la veille, sa femme lui a avoué qu'elle l'avait trompé ou qu'elle avait fantasmé sur un autre mec, je me souviens pas très bien. Il arrive, il est médecin, il arrive au cabinet et son assistante lui dit « Vous allez bien ?» Il dit « Oui » et il continue à avancer. Donc il fallait doubler le « Yes ». Okay. Et donc, c'était Pascal Ferrand qui dirigeait le plateau. Et donc, on fait le doublage « Vous allez bien ?» « Oui ». Et coupé. Yvan, n'oublie pas, quand même, c'est pas un « Oui » comme ça, quoi. C'est un « Oui » la veille, quand même, sa femme lui a fait des révélations Il faut que ce soit plus fragile. Ouais. On y va. Vous allez bien?
Oui.
Ah, ok. Attends, coupez. Non mais il est quand même médecin, tu peux pas oublier qu'il a quand même une certaine autorité. Je crois qu'on a fait à peu près une vingtaine de oui, et à un moment, on a écouté la dernière, et c'était « Vous allez bien ?» J'ai jamais entendu un oui comme ça dans ma vie. Voilà, et là j'entends un peu le doublage, donc voilà, on est. Je suis pas très fier, je crois, en fait.
Vous aimeriez que Tom Cruise vous double dans la version anglo-saxonne de Mon chien stupide?
Qu'est-ce que ce serait bien, disons.
Ça serait bien, non?
Ce
serait
jamais. Magnifique.
Mais je crois qu'il est trop cher.
Il est trop cher, prude. Effectivement.
Il est trop cher.
Il est très cher. Bon, Mon chien stupide, le nouveau film d'Yvan Attal, ça sort aujourd'hui même, puisque nous sommes mercredi. C'est un film pop, vous l'avez compris. Yvan, vous savez faire plein de choses, vous savez doubler, vous savez réaliser, vous savez jouer.
Doubler, du coup, je ne sais plus. Hein. Oui. Je ne sais pas si j'ai su.
Est-ce que vous savez faire ça?
Absolument.
Il sait le faire. C'est pour lancer les pop news. Merci.
Ouais, tu l'as fait.
Sorti aujourd'hui, mais en DVD cette fois, des quatrièmes aventures de Woody, Buzz, leurs amis la bergère et un petit nouveau.
J'ai le plaisir de vous présenter Fourchette.
Bonjour.
Ah oh,
c'est une cuichette.
C'est la panique.
Fais attention.
J'étais fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulé. Je ne suis pas un jouet, je suis un déchet.
Liberté.
Toy Story 4 de Josh Cooley avec les voix d'Audrey Fleurot, Angèle et Pierre Ninet, c'est dispo et édité chez Disney.
Pour tous les fans de musique et de la série Peaky Blinders, la production a annoncé la sortie d'un coffret collector rassemblant les différents thèmes et morceaux. 46 titres en tout, et parmi les artistes rassemblés, Richard Hawley, Jenny Beth, PJ Harvey, pour des morceaux composés spécialement pour le show. On y trouve aussi Idols, Royal Blood, Arctic Monkeys, Charline,
ouais.
Jack White, David Bowie et évidemment lui. Nick Cave and the Bad Seeds et le Red Right Hand qui sert de générique à la série. Cet énorme compil sera dispo le 15 novembre.
Bill Hollister est la cinquième génération de sa famille à faire régner l'ordre. Lorsque le shérif du comté de Los Angeles meurt, Bill Hollister prend sa place et devient responsable des 10 000 officiers qui contrôlent l'actuel Wild West. Bill Hollister, c'est Stephen Dorff et le titre de la série, c'est Deputy.
You need three things to do this job. The badge, the gun, and what's in your heart? You want to hunt gangsters? Human traffickers?
I'm your man.
Oui, un badge, un pistolet, ce qu'il y a dans votre cœur. Deputy, ce sera diffusé sur Fox en janvier et chez nous, on l'imagine dans la foulée.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Fourchette?
Non, la voix d'Audrey Fleurot.
Non, pas du tout.
Si,
la voix bien plus grave que ça.
Pas du tout, non, dans Toy Story 4. Bien, merci Charline. Yvan Attal, cette spéciale 30 millions d'amis continue avec Panagiotis Passereau, juste après All the Good Girls Go to Hell. C'est un morceau de Billie Eilish.
My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, those burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say.
Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell, cet extrait de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Quand on s'endort, où va-t-on? Ça, c'est une bonne question.
Nulle part.
Alors, vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Attal, et vient de nous rejoindre un de ses fils, Panayotis Pasco. Bonjour Panayotis.
Ses fils dans le film.
Pasco.
Bonjour.
Mais évidemment,
bonjour. Non, mais je précise.
Quand je dis un de ses fils, il s'agit bien évidemment du rôle que vous jouez dans le film Mon chien stupide, un fils qui est fan de surf, un peu branleur, hein, qui demande à sa mère de faire ses dissertes. Toute ressemblance est évidemment...
Bah, complètement. Branleur, c'est ce qui me définit le mieux.
C'est ce qui vous va le mieux dans la vie. Complètement. Oui. C'est ce que vous avez sur votre carte d'identité.
Totalement. Panayotis Pasco, branleur.
Ouais.
Surfeur, beaucoup moins. Beaucoup moins.
Yvan, il est censé être donc votre fils, ce qui signifie qu'il doit un tant soit peu vous ressembler. Qu'a-t-il de vous et inversement, Panayotis?
Oh. Vas-y. Il me regarde là, il m'inspecte.
Des beaux yeux, je sais pas, non mais...
Une taille de danseur.
Voilà, exactement, des longues jambes. C'est difficile de faire une famille au cinéma.
Bah oui, j'imagine bien.
Mais en même temps, quand on regarde les frères et les sœurs... au cinéma, c'est toujours absurde. Il y a un film où je trouve que c'est très très... Enfin, ça n'a rien à voir d'ailleurs. C'est même pas une famille. J'allais parler d'Il était une fois en Amérique quand on voit les jeunes et puis les vieux. Là, je trouvais que c'était très très bien fait de voir des enfants. On croyait que c'était les adultes qui avaient grandi.
Moonlight non, aussi,
mais, ça n'a rien à voir avec la question, pour le coup.
C'est
ça n'a rien
grave,
à voir avec la famille.
C'est intéressant quand même.
Ouais, mais là,
ils sont bien faits, les dinosaures dans Jurassic Park.
Ouais.
Ça n'a aucun rapport.
Ouais.
Mais les familles,
dire.
c'est dur. Oui. Voilà. Donc, j'en ai un, et puis un autre, je les ai additionnés comme ça. Puis je me suis imaginé que la fille, elle était un peu plus claire, moins brune que ses frères.
Mais ce qui a été très malin, c'est que quand Yvan a fait le casting, on a vraiment fait ça en famille, c'est-à-dire qu'on a fait le casting avec son vrai fils, avec sa femme, puis après on est allé boire des coups ensemble dans des restaurants, et je voyais qu'il nous espionnait un petit peu, il essayait de voir si la famille prenait. Donc il a vraiment pris son temps. Oui. Et après, de ce qu'on a pris l'un de l'autre, je pense que ce qui nous caractérise le plus, tous les deux, c'est le manque de patience.
Ah oui.
Je pense, vraiment.
T'es impatient toi aussi.
Ouais, mais moi je gueule moins.
De toute façon, je les ai eu les reproches là. Lui, il a commencé, et puis à partir du moment où lui a ouvert sa gueule, ils ont tous ouvert leur gueule, et puis ma femme.
C'était génial.
Donc là, j'ai compris que j'avais été
un
gros con quoi.
Dès qu'on faisait des interviews, qu'ils nous posaient des questions, il y avait un regard d'Yvan de fermez vos gueules. C'était beau, mais non, c'était très bien.
Panayotis, je vous ai connu comme pop-up. On vous a connu comme pop-up dans le Petit Journal. J'entends pop-up au sens intrusif du terme. Ensuite, comme stand-upper et désormais acteur. Mais juste avant de jouer avec Yvan Attal, vous avez tourné avec Quentin Dupieux dans Le Dain.
Oui.
Et vous m'avez confié hors antenne que Dupieux est nettement plus sympa.
J'ai quand même jamais dit ça. Oui. Mais le pire, c'est que Yvan, il va y croire. Regarde sa tête.
Non, mais attends.
Regarde sa tête.
Non, mais quand bien même j'y crois, mais j'en suis sûr même.
Alors.
Mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis un gros connard.
Ok, Maurice Pialat. Non, mais il y a Quentin Dupieux, déjà, ce qui est fou, c'est qu'il a genre 13 personnes. Il a 13 personnes sur son équipe. C'est lui le chef-op, le cadreur. Donc il y a un truc un peu où tu parles qu'avec lui. Il y a quelque chose de. Yvan, c'était une énorme production. Il y avait beaucoup de monde. C'était tout de suite beaucoup plus impressionnant. Et après, ce qui est cool avec Yvan, c'est que on tournait comme une famille.
Ouais,
on tournait
là,
vraiment
sens,
comme une.
Je
on
sens
tournait...
là, il se rattrape.
Non,
là,
je me rattrape tellement pas. Le tournage est terminé.
Pas,
hein,
je dirais pas ce que lui m'a dit sur Dupieux.
Et voilà, super. Donc quand vous me mettez, je vais recevoir un SMS
de Quentin Dupieux. Il ne tournera plus jamais à partir d'aujourd'hui.
Il avait beaucoup de mal à faire les scènes, Yvan.
Moi ou pas d'ailleurs?
Oui, moi j'ai beaucoup de mal. Il est naze, un connard, quoi.
Mais bien sûr.
J'ai un acteur débutant.
C'était mon premier rôle important au cinéma, c'était compliqué.
Non, mais c'est évident qu'un plateau de cinéma, c'est pas facile tous les jours, quoi. Ça veut dire, des fois, d'abord, il y a un chien qui pue, qui fait pas ce qu'on veut.
Qui bave.
Qui bave. On n'a pas assez d'argent, on fait des heures pub, il pleut, on voudrait qu'il fasse beau, il fait beau, on voudrait qu'il pleuve. C'est une galère. Donc, comment rester calme serein toute la journée et serein? Honnêtement, c'est impossible. Alors, c'est vrai que de temps en temps, je gueule, mais c'est jamais personnel, quoi.
C'est plus facile quand on a des acteurs un peu rodés, qui connaissent leur métier, quoi.
Absolument.
Je le prends tellement personnellement.
Alors, bah, justement, question que j'aime poser à tous les enfants. Tu préfères ton père ou ta mère? Autrement dit, Panayotis, vous avez préféré Yvan ou Charlotte?
Oh, bah, ça, c'est clair, hein. On l'a encore dit hier.
Ouais, je lui ai dit hier, putain.
C'est vrai.
Hier, je lui ai dit, j'adore Charlotte.
De toute façon, c'était pas original, hein.
Hein?
Tout le monde, non, pareil.
Charlotte. Je pense qu'il cache très mal sa dépression. Mais c'est pas grave. Non, c'est en fait c'est deux je pense que c'est deux spectres un peu, c'est les deux revers d'une médaille. C'est un peu la même personne, je pense. Mais il y a Yvan qui est très putain, quoi que je dise, il me regarde. Non, Yvan, il est très démonstratif et Charlotte, c'est un peu l'inverse, elle est très introspective, il y a quelque chose de plus doux. Donc évidemment, au premier abord, moi qui suis un peu timide et j'ai 21 ans quoi, j'arrive dans le milieu. Je pense que il y a un peu branleur, complètement branleur. C'est un petit peu plus simple d'aller discuter avec Charlotte, mais je pense que par exemple si Yvan n'avait pas été là quand je galérais sur certaines scènes, les scènes n'auraient pas été cool. Là, les scènes sont vraiment bien, et je pense que c'est parce que Yvan m'a aidé à y arriver, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, utile.
Il est sympa quand même.
Panayotis, avant le Petit Journal, avant le stand-up et avant le cinéma, nous nous sommes rencontrés, c'était il y a quelques années au Grand Journal de Canal+. Vous avez présenté un matin en conférence de rédaction comme mon neveu de 16 ans venu passer la journée pour observer le monde des médias. Sauf que nous avions quelques heures auparavant caché des dizaines de caméras dans l'open space et vous aviez une mission, celle de faire craquer l'équipe. Vous vous en rappelez?
Première fois en télé, c'était un casting, je ne sais même plus comment j'avais réussi ce truc. J'en parle dans mon spectacle en plus de ce premier casting que j'ai un peu réussi par hasard. Et ouais, c'était une grosse pression parce que moi, fan du Grand Journal, évidemment, fan du Petit Journal et tout. Et puis on m'a dit, ouais, bah tu vas rentrer dans la rédaction, on va te faire passer pour le neveu d'Antoine Decaune et il faut que tu ailles faire chier tout le monde et pour rien dire parce que t'es le neveu du boss. C'était un beau moment.
C'est très bien réussi, hein. Ouais. Bon, vous en parlez dans votre spectacle. Le spectacle s'appelle Presque. Il affiche complet. Bravo.
Ouais, merci.
Extrait.
J'ai croisé un écolo il y a pas longtemps. On s'est pas parlé longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir et il s'est douché. Mais c'était vraiment bon gars. Hein. Mais il m'a un peu énervé. Il m'a arrêté comme tous les écolos t'arrêtent. Tu sais, ils t'arrêtent pas normalement à l'entrée du métro. Genre bonjour, ils font salut. Ils font une barrière avec leur corps. Ils font un péage pour que tu puisses pas passer. Et tu sais, il m'a dit, vous êtes au courant que les abeilles, ça va pas? Et tu sais, au bout d'un moment, il s'agitait comme ça autour de moi et je me suis dit, gère-le comme une abeille. Arrête de bouger, il va partir.
Yvan, vous êtes un peu obligé d'aller voir le spectacle maintenant.
Mais c'est pas que je suis obligé, j'ai très envie de voir le spectacle.
Ah oui,
d'ailleurs, même quand j'entends ça, j'ai très envie. Mais la promo, les trucs, de toute façon, je vais y aller, évidemment. Okay.
Ça s'appelle Presque, c'est ça?
Parfait, Presque. Et au Théâtre de l'Atelier aussi, en novembre, on le fait.
Pourquoi Presque? Parce que c'est pas tout à fait encore...
Presque, pas fou. Non, justement, Presque, parce que je pense que c'est le mot qui définit un peu le mieux ce que j'ai envie de faire. C'est Presque. Presque plein de choses. Et puis Presque aussi en rapport avec le père. Et puis Yvan, on peut en parler un petit peu. Ben, je pense que tu comprends que j'ai un problème avec le père. Parce que ça a un peu été mon papa de substitution. Et le spectacle parle de ça, d'un rapport entre un père et son fils, un rapport qui est presque sain.
Donc, Très bien. Bon. Et c'est mis en scène par Farid.
Exactement.
Panayotis, Yvan Attal, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. J'y vais, j'appelle mon ascenseur. Alors. Oh, cette musique. Moins deux, la discothèque. Tiens, je vais jouer un petit Beatles. Un Die Lover pour Yvan. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir, ça. C'est quoi ça? Stupide! Tu es venu écouter l'émission! Pourquoi tu babes? Stupide! Stupide, me regarde pas comme ça! Non! Stupide! Putain, il court vers moi, j'aime pas ça! Non! Stupide! I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything
Beatles dans Pop sur France Inter, And I Love Her, c'était en 64, on n'a pas vu le temps passer. Bon, on n'a pas vu le temps passer pendant 7 heures non plus. C'était avec Yvan Attal. Et comment on se dit votre
Panayotis.
Nom
Panayotis.
Panayotis, c'est grec,
c'est
ça,
complexe,
non
mais c'est grec.
C'est grec,
oui,
hein,
oui.
Panayotis.
Panayotis.
D'accord. J'ai vu que vous ne vouliez pas qu'on l'écrive dans les... chez Starbucks sur les gobelets, ça vous est...
Ah oui, non, c'est juste que c'est compliqué fautes. À écrire, j'ai ouais. tout le temps Jean, c'est plus simple.
Voilà. Panayotis.
Très simple.
D'accord. Bon, merci à vous deux, mon chien stupide. C'est en salle depuis ce matin et c'est un film pop, bien sûr, et j'en profite pour annoncer que vous êtes au Point Virgule Panayotis jusqu'au 16 novembre avec votre spectacle Presque,
oui.
Et au Théâtre de l'Atelier les 20 et 21 novembre, c'est bien ça
ouais.
Ok, toutes les infos sont là. Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Stéphane Beaujea, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop, lui.
Elle chante. Vive les saucisses de...
Arnaud sera dans notre studio. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Stupide à la fin de ses tutos, Jackie et Michel version canine sur YouTube.
Ça veut dire... mais vous bavez, arrêtez, c'est sale.
Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop sur Instagram et Twitter.
Et couchez.